historiquement vôtre, c'est aussi l'histoire des bonnes recettes, des produits qui font la fierté de la France. Et le produit emblématique qui se boit, c'est le vin, mon cher Olivier. Il y a un classement qui permet de distinguer les grands crus de Bordeaux, notamment du Bordelais et un peu de Bourgogne, vous nous disiez. C'est le classement.
Alors non, pas de Bourgogne. Je vais vraiment tout mettre à plat. Non, vous allez voir.
Non. Sancerre, c'est.
Pas du tout. Uniquement les vins du Médoc et de Sauternes.
Sauternes,
le classement de 1855. Alors ce n'est pas le plus ancien des classements qui ait été fait en France. Celui-là date donc, comme son nom l'indique, de 1855. Alors pourquoi existe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Eh bien, c'est un classement qui a été établi à la demande de Napoléon III à l'époque pour l'exposition universelle de 1855, au cours de laquelle on entendait présenter des vins de Bordeaux. Et comme on ne pouvait pas les hiérarchiser sur place, c'était trop compliqué, on a demandé à la Chambre de commerce de Bordeaux de s'occuper de faire un classement. Et c'est le Médoc et la région de Sauterne qui dépendaient de la Chambre de commerce de Bordeaux. Et c'est donc pour ça que ce sont exclusivement ces vins-là qui ont été classés cette année-là. Et non pas, par exemple, les vins de Saint-Émilion qui dépendaient de Libourne. Alors, comment ont-ils fait? Eh bien, ils se sont adressés au syndicat des courtiers, qui connaît extrêmement bien le milieu du vin, puisque c'est eux qui font l'intermédiaire, finalement, entre les négociants et les producteurs. Et ils se sont basés sur une chose extrêmement simple, le prix. En se disant, finalement, le marché a toujours raison. Quand c'est très bon, c'est très cher. Quand c'est moins bon, c'est moins cher. Et donc, ils ont pris les cours des principaux vins de cette région-là et les ont hiérarchisés en cinq niveaux de catégorie, de premier à cinquième grand cru classé. À l'époque, 57 propriétés sont classées en rouge et 21 en blanc. Et alors, parmi l'élite, il y en a 4 qui sont les châteaux. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez l'habitude d'en voir? Non, alors ça c'est Saint-Émilion. Alors je vais vous les donner.
Pomerol.
Lafitte, Latour, Margaux et Aubryon, qui est pourtant un château qui est situé non pas dans le Médoc, mais aujourd'hui en Pessac-Léognan, qui est aux frontières de Bordeaux et qui va être intégré à ce classement. En tout, j'ai donc dit 57 châteaux. Aujourd'hui, ils sont 61. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des divisions de châteaux. Par exemple, le château Pichon-Longueville a été divisé en Pichon-Baron et Pichon-Comtesse. Mais il y a aussi eu deux modifications dans ce classement, seulement deux depuis qu'il était créé. La première modification est intervenue la même année, mais en septembre 1855, alors que le classement avait été publié en avril, avec l'intégration du château Cantemerle. Et la deuxième modification qui est très importante, elle a permis au château Mouton-Rothschild, en 1973, de passer du statut de second grand cru classé au statut de premier. Ce sont les deux seules modifications.
Mais c'est quoi, c'est du lobbying? Qu'est-ce qui aboutit à ça?
Alors, à l'époque, figurez-vous, il y a un peu de lobbying, parce que le château Mouton-Rothschild appartient, comme son nom l'indique, à la famille Rothschild, qui a travaillé au sein de cette banque Rothschild pendant quelques années avant de devenir un célèbre ministre signant le...
Et le président de l'époque n'est autre que Georges Pompidou, qui travaillait
le président, chez Rothschild. Le président, c'est Georges Pompidou. Un certain Jacques Chirac a également des relations très ténues avec la famille Rothschild. Et c'est lui qui, ministre de l'Agriculture, va signer en 1973 le décret permettant à Mouton Rothschild de passer premier grand cru classé.
Mais pourquoi il y a des grands crus aujourd'hui qui ne sont pas classés?
Alors, chaque région s'inspirant de ce classement va, dans les années suivantes, tenter d'en créer ou en créer. Mais ce que je voudrais dire, ce qui est très important, c'est que ce classement, lorsqu'il est fait, c'est un classement de marque et non pas de terroir. C'est-à-dire que ce sont les châteaux qui sont classés et non pas leurs vignes. Et ce qui va faire que, depuis la création de ce classement, pratiquement tous les châteaux vont voir leur foncier évoluer. Parce qu'à partir du moment où vous achetez les vignes qui sont voisines des vôtres et qui sont au sein de la même appellation, vous avez parfaitement le droit de les intégrer dans votre production. C'est une bagarre juridique sans fin. Les propriétés classées en 1855 n'ont pas du tout envie de voir arriver d'autres châteaux.
Qu'est-ce que ça peut leur faire?
On n'a pas forcément envie de se diluer.
On n'a pas envie de se diluer, ça
pour
sera
un bon vin.
Le mot de la fin.
Vous ne
pour
mettez pas bon d'eau vin. Dans votre
on
vin.
On ne
vous.
Coupe pas de vin. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes et le classement de 1855 sur le site d'Europe 1.fr. Europe 1.